Vous écoutez un podcast Top Music.
Top Music, premier sur la région.
Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
Moi, j'ai toujours adoré le foot. J'adore cette ambiance. J'adore cette ambiance des dimanches au bord de terrain, à manger la merguez, à se poser dans l'herbe et puis échanger, regarder les garçons jouer. Moi, j'adore ça. J'avais envie de reproduire ça.
Ouais.
Et qui est vraiment tout le monde, dont les femmes. En 2017, la Ligue de football professionnel nous a récompensés pour la meilleure expérience stade dans la catégorie femmes, avec un prix pas des moindres à la clé, puisqu'il y avait 10 000 euros. Et c'est comme ça qu'est née l'envie de créer l'association Femmes de Foot.
Aujourd'hui, sur le podium, je reçois une femme engagée, une copine, comme le nom de la tribune 100% féminine du stade de la Méno, le stade du Racing Club de Strasbourg. Cette tribune, Sabrina Keller l'a imaginée pour accueillir les femmes au stade. Femme de footballeur elle-même, elle avait à cœur de faciliter l'accès aux femmes. Elle crée en 2017 l'association Femmes de Foot. Au-delà des matchs, l'association a depuis pris un nouveau visage et mène des opérations caritatives et solidaires pour des causes majeures. Sur le terrain comme dans la vie, Sabrina a coutume de dire « Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour gagner ensemble ». Alors Sabrina, vous allez nous raconter comment vous est venue cette idée formidable de Femmes de Foot.
Bonjour Caroline, oui, avec grand plaisir.
Alors comment ça a commencé? D'abord, comment vous est venue l'idée?
Alors c'est une idée que j'ai depuis très très longtemps, déjà quand mon mari était à l'Est Monaco. Voilà, je m'occupais des enfants, je ne travaillais pas et je me dis toujours qu'on ne considérait pas tellement les femmes dans les stades. Et donc déjà, ça remonte à il y a plus de 15 ans, mais c'est en reprenant le Racing Club de Strasbourg que l'idée a pu vraiment se concrétiser. Et puis j'ai rencontré des femmes extraordinaires à un moment où le club était au plus bas ou quasiment mort et qui souffraient beaucoup de ne plus venir au stade, de ne plus pouvoir vibrer. Et j'ai dit à Marc, je pense qu'il faut aussi qu'on les considère. Donc j'ai commencé un travail de féminisation dans les espaces du stade de la Méno.
Alors revenons un tout petit peu sur votre histoire personnelle. Vous vous mariez à un footballeur,
oui.
Un footballeur professionnel.
Oui.
Alors c'est quoi la vie d'une femme de footballeur?
Je crois que chacune a une vie un peu différente, comme dans tous les métiers. C'est vrai qu'être femme de footballeur aujourd'hui, ça peut être décrié. On peut avoir l'impression que les femmes passent
beaucoup,
leur temps.
Hein.
On parle beaucoup de foot en règle générale. Le foot est très important dans la vie des gens, c'est le sport le plus populaire et c'est vrai que du coup les footballeurs ont un impact sur la société, on attend beaucoup d'eux, peut-être un peu moins des femmes, mais c'est vrai qu'elles jouent un rôle important auprès de leur mari, souvent, enfin en tout cas de ma génération, les footballeurs se mariaient très tôt parce qu'il fallait vraiment une stabilité de vie. Ce sont des hommes qui sont extrêmement pris toute la semaine, tous les week-ends, qui ont, en fait, ils ne font que du football, quoi.
Ouais.
Ils ne font que du sport, ils n'ont pas beaucoup d'autres choses à faire. Donc, c'est vrai que pour les femmes qui vivent avec ce genre d'hommes, c'est un sacerdoce. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits. Donc, toutes les femmes de footballeurs ne sont pas des Victoria Beckham ou des influenceuses. Il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des hommes qui ne jouent pas forcément qu'en Ligue 1, hein, parce qu'on n'est pas que footballeur professionnel quand on est en Ligue 1. Elles voyagent beaucoup, elles sont à la merci de leur mari, qui eux-mêmes sont à la merci de contrats qu'on leur donne dans différents clubs.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a aussi une hygiène de vie à respecter, peut-être, je ne sais pas, qui
Ah oui, en tout cas, oui.
On ne bouge pas à des heures.
Oui, oui. C'est vraiment une vie, je n'allais pas dire d'asset, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grande soirée, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas les vacances quand on le décide. Ils ont très peu de vacances dans l'année, ils ont une hygiène de vie. En tout cas, moi, je parle de ceux de ma génération. Après, je ne connais pas la nouvelle génération. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils sont encore plus performants physiquement, donc ils vont très loin, ils poussent très loin dans l'effort physique. Et c'est vrai que ce qui fait beaucoup de bien aux sportifs de haut niveau, en règle générale, c'est se ressourcer en famille. La famille est très importante pour un sportif de haut niveau. Un joueur de foot, c'est quelqu'un qui ne va pas vraiment se confier. On va parler de lui, on va le juger, on va parfois le moquer, on va parfois l'aduler.
C'est performant, en fait,
voilà,
hein.
On va l'aduler, puis du jour au lendemain, il n'est plus rien, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, je crois que l'équilibre familial est très important.
Alors, du coup, ça vous oblige à voyager beaucoup, à changer de ville. Il a été souvent dans des clubs, peut-être à l'étranger.
Oui, me concernant, quand j'ai rencontré Marc, c'était sa dernière année au Racing Club de Strasbourg. On était jeunes. Et puis, 6 mois après notre rencontre, il a signé à Karlsruhe. C'est pas très loin, mais c'est quand même un changement de vie. Mm-hmm. Moi, j'étais étudiante à l'époque. C'est vrai que j'ai fait le choix de le suivre. Karlsruhe, c'était pas très loin, donc j'étais pas loin de ma famille. Mais c'est sûr que la rupture, quand il a signé à West Ham, je venais juste d'accoucher de notre premier enfant. J'ai accouché en mai 98 et puis quelques jours après, nous avons déménagé à Londres. Et là, c'est vrai que ça change complètement. J'étais jeune, je ne connaissais personne. Lui n'était jamais là parce que entre les entraînements, les mises au vert, les stages, je me suis retrouvée avec un bébé de 3 semaines dans une ville que je ne connaissais pas, sans médecin, sans personne pour m'aider. Parce que quand tu arrives, le club va faire un peu ce qu'il peut. Mais nous, on était en plus étrangers. Mais il fallait que je trouve un pédiatre, il fallait que je trouve un nouveau rythme de vie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments aussi de solitude. C'est une fois que la porte elle est fermée et qu'il est parti à l'entraînement, tu te retrouves seule avec, en plus quand on est une jeune maman,
les angoisses
et puis la sensibilité et la fragilité qu'on peut avoir et on est loin de la famille et c'est ce qui manque le plus, bien sûr.
Donc ça c'est quand même, comme vous disiez tout à l'heure, un sacerdoce parce que vous avez tout abandonné. Pour le suivre.
Oui, j'ai tout abandonné pour le suivre.
Alors, sans qu'il soit là en plus.
Oui, c'est ça. Hein? C'est que l'amour prime, je crois. Alors, c'est vrai que j'avais fait des études de droit. J'étais en maîtrise. J'ai arrêté en maîtrise parce que je suis tombée enceinte en plus de mes livres. Enfin, j'avais quand même repiqué ma première année puisque je travaillais à l'époque. Et on fait un choix. En fait, on est jeune et on se dit, on a envie d'être avec l'homme qu'on aime. Mmh. Puis après, la vie a quand même fait que j'ai pu me réaliser. Mais c'est vrai que c'est pas facile de suivre comme ça un homme qui, en plus, est tout le temps dans la lumière. Pour qui on attend beaucoup et souvent quand on est à côté, on n'existe pas vraiment. Les gens sont parfois adorables mais parfois maladroits aussi. Et puis te considèrent vraiment comme la femme du footballeur. On est la femme d'eux.
Mmh. Ouais. Il y a une musique qui vous rappelle cette époque londonienne?
Ah, il y en a plein. Moi, j'étais fan de Robbie Williams. Et le premier soir où on est sorti quand même manger avec Marc, je l'ai croisé. Il a traversé la route et là, je me suis dit, ça y est, je suis dans un autre monde. C'est Londres. Enfin, tout ce que tu pouvais imaginer vivre, j'ai adoré.
Alors, donc, être la femme d'eux, vivre un petit peu dans l'ombre comme ça, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie finalement de vous réaliser après ou de faire quelque chose par vous-même? Comment ça vous est venu cette idée de femme de fou?
Moi, je rêvais d'être journaliste ou juge pour enfants. Quand j'étais encore chez mes parents, je me disais, il faut absolument que je fasse des études, il faut que je fasse du droit, il faut que je puisse peut-être pas dénoncer l'injustice, mais en tout cas essayer de réparer quelque chose dans cette société, Je vois quand même des parallèles entre être juge pour enfants, c'est défendre un peu les plus fragiles et peut-être par le côté journaliste dénoncer aussi certaines choses ou en tout cas montrer des choses.
Ça, vous l'aviez chevillé au corps.
Ça, je l'avais chevillé au corps depuis toujours.
D'où la difficulté, j'imagine, encore plus importante d'abandonner tout ça.
Oui, mais je me disais, un jour ou l'autre, je réaliserai quand même. En fait, ça peut revêtir différentes formes d'être au plus près des gens et d'être au plus près d'une réalité et peut-être parfois et la dénoncer et essayer de faire que les gens souffrent moins. J'étais persuadée qu'un jour je trouverais ma voie et que de toute façon les études de droit que j'avais fait me serviraient parce que ça t'apporte une espèce de rigueur, parce que tu dois être assez précis, donc je me disais, c'est pas grave, un jour ou l'autre...
C'est pas perdu
et un jour ou l'autre, j'ai élevé mes enfants aussi, on a eu 2 enfants ensemble et je me disais que je ne pouvais pas, moi, aller travailler à côté, j'aurais pu faire des choses. Après, quand t'as fait des études de droit, c'est moins facile de trouver un emploi comme ça, surtout quand tu vas pas au bout. J'étais ni avocate, ni juriste, encore plus à l'étranger. Et du coup, je me suis dit, tu vas te consacrer à tes enfants. Ça t'apprend aussi beaucoup d'être à la maison avec des enfants. C'est toutes ces femmes qui se sacrifient aussi pour éduquer leurs enfants. Souvent, on ne les considère pas
exactement
de la même manière. Je veux dire, faire l'éducation de tes enfants, c'est un vrai métier. C'est pareil, c'est aussi un sacrifice. Parce que tu es à la maison toute la journée, c'est parfois dévalorisant pour une femme. de dire, mais attends, mais moi, en fait, toute la journée, je m'occupe de mon gosse, je vais le chercher à l'école, mais qu'est-ce que je fais pour moi? Il y a toujours des remises en question, mais voilà, moi, j'ai adoré faire ça quand même. Et puis maintenant, ils sont grands, donc je peux me consacrer à autre chose, oui.
Alors, après Londres,
On est revenu en France, puisque Marc a décidé d'arrêter sa carrière. On a passé 3 ans à West Ham, et il a fini 6 mois à Blackburn. Moi, je suis rentrée les 6 derniers mois en France pour préparer un peu le retour. Marc est quelqu'un qui savait exactement qu'il avait envie d'arrêter relativement tôt sa carrière parce qu'il est passionné par d'autres choses. C'est quelqu'un qui a fait des études. Moi, j'ai rencontré un footballeur, mais j'ai rencontré un homme qui aimait faire des études, qui avait fait sciences éco. J'ai rencontré un homme qui adore faire de l'immobilier. Donc, il avait différentes casquettes et très tôt, il a voulu décider de sa fin de carrière. Il n'a pas voulu prolonger absolument. Il considérait qu'il avait fait ses années. Il avait été en équipe de France. Il avait bien... Il a adoré.
À quel âge il a arrêté?
Il a arrêté. Alors, moi, avec les âges, mais il devait avoir 33,
d'accord,
je crois à peu près. Et puis du coup, en revenant en Alsace, c'est le groupe McCormack qui travaillait au Racing, enfin qui avait repris le Racing et qui cherchait un directeur sportif général. Et donc, il s'est lancé dans cette carrière d'après footballeur au Racing. Donc, on est revenu quelques années ici. Et puis par la suite, on est reparti à Monaco où là, il a été directeur général de l'AS Monaco.
D'accord.
Donc, on est revenu en Alsace et puis on est reparti 3 ans à Monaco.
Et donc, tout le monde suit les enfants.
Ouais, voilà. Alors, ils étaient assez petits, donc c'est plutôt bien passé. Et puis, on est revenu juste à temps, à l'adolescence. J'étais heureuse de revenir en Alsace à ce moment-là pour vivre une autre adolescence que ce qu'on peut voir dans le sud ou à Monaco.
Et là, il est devenu président.
Et là, il est revenu. Et puis, le club était vraiment au plus bas. Et il est revenu comme président, oui.
Et alors, c'est à ce moment-là que vous décidez de vous engager à ses côtés?
C'est vraiment à ce moment-là que je me dis, bon, là, tu rentres chez toi, sur tes terres, en Alsace. Je savais pertinemment que dès le moment où il va prendre la présidence, c'est pas quelque chose qui... Il y avait un gros travail à faire. On savait que ça durerait quelques années. Donc, je me suis dit, bon, bah maintenant, les enfants sont grands, tu es
là,
chez
faut
toi.
Que je m'occupe de moi.
Ouais, tu es près de ta famille. C'est peut-être le moment de réaliser ce que tu avais envie de réaliser. Je ne savais pas exactement sous quelle forme, mais effectivement, travailler à la féminisation des espaces dans le stade, prendre soin de notre public, de nos supporters, de les comprendre pour
de
que...
De nos supporters ou de nos supportrices?
Non, c'est des supporters en général.
Axé. Ah oui, d'accord.
Ouais, non, mais quand même en général.
Okay.
Avec un petit focus sur les filles, puisque c'était là où il y avait moins de développement et dans la pratique du football et dans le fait d'être supporter. Donc, c'est vrai que je me suis... Non, moi, c'est les supporters en général qui m'ont intéressée.
D'accord.
C'est notre public, c'est la société.
C'est le meilleur public de France.
Je ne sais pas, non, je pourrais pas dire... Oui, bien sûr, c'est un très bon public, mais il y a Lens aussi où ils ont un très bon public. Mais je crois que dès le moment où il y a une bonne ambiance dans un stade, on a forcément... Chacun va dire que c'est son meilleur public, mais je crois que Strasbourg fait partie du top 3 des bons supporters.
D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, mais vous aimiez le foot?
Moi, j'ai toujours adoré le foot.
C'est vrai?
Ouais. Je viens d'une famille...
Donc, vous aimiez tous les matchs?
Ah oui, non, mais moi, je viens d'une famille où tout le monde jouait au foot. Je viens de Mulhouse, enfin d'Ilzac, plus précisément d'un quartier, d'une banlieue, mais ce n'était pas avec les grandes tours, mais c'était quand même un quartier. Et puis, il y avait, à cette époque-là, toutes les nationalités qui se côtoyaient dans ces quartiers. Donc... on faisait des Coupes du Monde à peu près toutes les semaines. Hein. C'était les Italiens qui jouaient contre les Portugais, contre les Arabes, contre les Marocains, contre les machins. Donc, il y avait, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il y avait dans tous les quartiers un terrain de foot. Mm-hmm. La ville mettait à disposition, en tout cas, les élus faisaient en sorte qu'il y ait un terrain pour que chacun puisse être un peu occupé. On n'avait pas grand-chose d'autre. Donc, on jouait au foot tous les dimanches. Et moi, j'étais une des filles qui était la plus active et... qui faisait même l'équipe. Donc, j'étais déjà très engagée à cette époque-là.
Donc, vous aimiez le foot et vous aimiez le match sans vous prier?
Non, moi, je regardais tous les matchs à la télé. Bon, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais j'adore cette ambiance. J'adore cette ambiance des dimanches au bord de terrain, à manger la merguez, à se poser dans l'herbe et puis échanger, regarder les garçons jouer. Moi, j'adore ça.
Donc, c'est ce que vous aviez envie de reproduire?
J'avais envie de reproduire ça.
Ouais.
J'avais vraiment envie qu'on ressente au Racing l'ambiance amateur, mais d'un point de vue professionnel. Voilà, c'est comme une Madeleine de Proust hein, quand tu as grandi avec le dimanche matin, le foot, les copains. Non, pas du tout. Mes frères, on joue au foot. Mes oncles, on joue au foot. Donc voilà, nous, c'était les sandwichs qu'on faisait aussi. Il y avait cette ambiance, j'avais vraiment envie de la ressentir. Et justement, pour être un peu en opposition à ce qu'on peut appeler le foot un peu business, ou voilà, quoi. J'ai envie que quand les gens viennent à la Méno, ils soient bien, quoi, qu'on se crée des souvenirs, qu'on passe un moment tous ensemble, qu'on rencontre des gens, qu'on partage une tarte flambée, et qu'il y ait vraiment tout le monde, dont les femmes. Et ça a été vraiment un travail de longue haleine que j'ai commencé il y a maintenant 11 ans. Au Racing, avec un premier événement où on a fait venir les femmes, où on a fait payer les femmes, parce que je considère que si on ne paye pas, on ne peut pas fidéliser. Hein, on va venir une fois, on va dire c'était sympa, mais bon, il faut aussi payer.
C'est pas impliqué.
Non, voilà, c'est un spectacle. Si on vient voir un spectacle, le foot, c'est avant tout ça. Donc, on a commencé comme ça par un événement. Et puis, l'année d'après, les gens nous l'ont redemandé. Donc, on a recréé un événement « Je peux pas, j'ai Racing ». Et puis, un jour, j'invite des copines à la maison, différents univers, différentes catégories socio-professionnelles. Et puis, certaines s'étaient déjà croisées au Racing. Et puis, elles ont commencé à se dire « Ah, mais t'étais pas au foot. Ah ouais, mais femme de foot. Ah, bah, t'es une femme de foot, machin. » Et je me dis « Ah, là, il y a peut-être quelque chose à faire. » Donc, on a vraiment créé une communauté femme de foot. L'événement femme de foot une fois par an. Et puis, en 2017, la Ligue de football professionnel nous a récompensés pour la meilleure expérience stade dans la catégorie femme, avec un prix pas des moindres à la clé, puisqu'il y avait 10 000 euros. Et c'est comme ça qu'est née l'envie de créer l'association Femmes de Foot.
C'est beau, ça, d'avoir été repéré quand même, parce que ce projet que vous aviez de recréer cette ambiance dans les tribunes, etc., vous le partagiez avec votre mari ? Vous le partagiez avec l'ensemble du Racing ?
Obligatoirement, parce que tout est parti de sa volonté. Je crois que s'il m'avait dit « non, c'est pas le moment », ou « ça m'intéresse pas », ou « on a d'autres... d'autres préoccupations ou d'autres, on a peut-être plus envie de faire venir les jeunes, les étudiants, j'aurais pas pu le faire. Donc on m'a posé la question une fois lors d'une petite conférence que j'avais faite en me disant mais c'est parce que c'est votre mari que vous avez pu faire tout ça. Oui, c'est grâce à lui que j'ai pu développer ça. Après j'ai bossé dur. Donc il a été réceptif. Il est Marc est quelqu'un qui n'est pas très expressif. Je pense qu'il avait besoin que je fasse mes preuves. En tout cas, il m'a laissé tenter et puis il a vu que finalement ça prenait. Mais parce qu'on le fait avec le cœur et il n'y a pas de stratégie. Ça aurait pu s'arrêter au bout de 2 ans. J'aurais été très heureuse de l'avoir
vous
fait.
Vous n'aviez pas d'ambition particulière par rapport à ça. Mais ce chèque de 10 000 euros, ça relance la machine.
Ah, le chèque de 10 000 euros, tu te poses la question. Je me souviens encore du coup de fil de notre secrétaire général qui m'appelle un soir en me disant « Sabrina, c'est le Racing qui a remporté le prix. » Moi, j'étais très émue.
Vous saviez que vous...
Oui, on avait... Alors, tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient concouré à ce prix-là. Donc, et nous, à l'époque, on était encore en Ligue 2. Donc, il y avait Monaco, PSG qui était en Ligue 1, voilà, tous ces clubs-là qui avaient rempli un dossier en mettant en avant les actions qu'ils menaient pour les femmes. Nous, on avait fait notre dossier de la même manière et c'est nous qui avons gagné. Cette année-là, on gagne d'ailleurs meilleure expérience stade et on gagne meilleur public. Donc, j'étais très heureuse parce que je suis montée sur scène pour récupérer moi le prix pour les femmes. Et puis, notre directeur de la sécurité est monté pour le prix du meilleur public. Et je trouvais que c'était bien nous. C'était bien représenté pour le Racing.
Donc, c'était vous qui étiez dans la lumière cette
fois-ci. Ouais, devant une assemblée que d'hommes, d'ailleurs. Je me souviens et j'avais dû faire une petite réflexion pour leur dire que j'étais quand même vraiment surprise qu'on ait créé un prix de la meilleure expérience stade où j'étais devant une assemblée où il n'y avait que des hommes.
Donc dans le jury, il n'y avait que des hommes.
Il n'y avait que des hommes, partout dans la salle, quasiment que des hommes, quoi. Et je me disais, il y a encore du boulot, même si, moi, je ne suis pas du tout pour la parité, mais je suis juste simplement pour
justement,
que tout...
Justement, j'allais demander, vous vous considérez comme féministe ou...
Non. Moi, je donnerais plutôt la prime à la compétence qu'à la parité. Mais après, je crois que la parité, ça serait un long débat, a beaucoup aidé. En politique, notamment, c'est vrai qu'il fallait peut-être avoir des quotas à un moment pour qu'on puisse voir émerger aussi des femmes qui avaient envie de s'engager. Mais non, je suis pas une grande féministe, quoi.
Donc, vous recevez ces 10 000 euros.
Oui. Et là,
vous me dites, qu'est-ce que je vais en faire?
Oui, et puis là, je me dis, bon, ben, ces 10 000 euros, il faut forcément les réinjecter. Et j'avais pensé, avec l'accord de mon mari, les donner à une association pour acheter, je crois que c'était des baby-foot à l'époque, pour l'hôpital. Je me suis dit, tiens, ça doit être sympa. J'avais déjà vu un projet comme ça. J'y connaissais rien. Hein. Je n'avais jamais été dans le monde associatif. C'était pas... Voilà, je voyais ça de loin. Et puis, j'ai pas
vous
trouvé...
Vous dites pas, tiens, on va les encaisser pour, je sais pas, moi... Le prochain match, faire...
Ouais, non, je me suis pas... Non, pas du tout. Je me suis dit, tiens, bah, c'est de l'argent comme ça qui arrive, qui n'était pas prévu dans les comptes du Racing. Donc, je vois pas pourquoi il devrait y retourner. Mm-hmm. Et plutôt faire du bien avec, justement, pour montrer que à travers des projets de féminisation, on pouvait aussi aider des gens. Voilà, c'est parti de ce postulat-là. Et puis comme j'ai pas trouvé l'association qui me donnait envie de la suivre, et j'avais vraiment envie de tracer l'argent en plus, je me suis dit, bon, bah, enfin, j'ai une amie qui m'a dit, mais pourquoi tu créerais pas ton asso, ça t'irait super bien. T'es plutôt une fille qui aime les challenges, qui, voilà, tu sauras faire ça très bien. Je l'ai écoutée, et puis je me suis lancée, mais je n'y connaissais rien, j'avais jamais monté une association, je sais pas du tout les statuts, les machins.
Vous aviez vos années de droit qui revenaient.
Ah voilà, c'est là où je dis que finalement... Ouais, c'est quand tu as fait du droit, tu as quand même effectivement ce côté où, assez carré, quoi.
Ouais.
Et je me suis dit, allez, de toute façon, au pire, je vais donner 10 000 euros, donc c'est génial, et puis après, on verra. Mmh. Et comme je vais souvent le répéter sur moi, il n'y a pas de stratégie, bah, c'est parti. J'ai créé cette association, je me suis dit qu'il fallait trouver une cause quand même fil rouge, toujours... en respectant les valeurs du Racing Club de Strasbourg.
Donc, ça reste une association qui est liée quand même au Racing Club de Strasbourg.
Elle est liée parce que j'ai fait mes premiers sous grâce à eux. Mm-hmm. Marc n'avait pas forcément l'intention de créer une fondation, des choses comme ça. Il y avait beaucoup de choses à faire, à reconstruire dans le club. Et du coup, il s'est appuyé aussi sur Femmes de Foot pour pouvoir... développer des actions caritatives en collaboration avec moi.
D'accord.
Donc oui, mais j'allais dire, mais 80% de mon temps, je travaille pour eux. Après, ouais. J'ai des mécènes qui sont arrivés voilà, de manière un peu indépendante. Mais finalement, c'est le biais du football. Avec le foot, tu peux véhiculer tellement de messages que je suis affiliée au Racing Club de Strasbourg. C'est mon association, mais je la mets au service du Racing pour des opérations.
D'accord. Et donc, alors, ce choix de cause, comment vous avez...
J'ai un petit peu réfléchi, on en a discuté, et je me suis dit que de toute façon, le football, ça parlait beaucoup aux enfants. Mm-hmm. Ça fait rêver beaucoup d'enfants. Donc, aider des enfants malades, les faire venir au stade, bien évidemment, ça faisait partie des attributions que j'allais me donner. Mais je trouvais que ça ne suffisait pas et qu'il fallait partir sur une cause qui touche aussi les femmes, puisque j'étais sur la féminisation. Et j'avais perdu quelques copines de cancer du sein. J'en entendais beaucoup, il y en avait beaucoup autour de moi. Voilà, on est toutes pareilles, on va faire une mammo de temps à autre. Et on connaît le moment entre la mammo que tu as faite et le moment où tu attends le résultat, où tout te passe par la tête. Et comme aujourd'hui, ça touche à peu près tous les âges, je trouvais ça tellement injuste de me dire qu'on pouvait, que le sein qui peut nourrir puisse te tuer aussi. Je trouvais ça vraiment... vraiment terrible, et je me suis dit que ça serait la cause fil rouge du Racing durant au moins une année, la première année, la première saison, puis finalement on a continué sur
donc
cette
cause
là
c'est toujours la cause fil rouge.
Ouais, et puis faire porter cette cause par des hommes, c'est intéressant, par des hommes qui ont le pouvoir de faire véhiculer des informations, un message de prévention, un message de sensibilisation. Et puis je trouvais que je n'allais pas contre un public, puisque forcément, dans notre public, nos supporters sont touchés par des femmes qui sont atteintes de cancer, une mère, une fille, une sœur, une copine, une collègue. Donc, je savais que cette cause pouvait fédérer, parce qu'il fallait quand même fédérer. Rien n'a été facile dans ce que j'ai entrepris il y a 11 ans.
Autant que des associations, on va dire, il y en a plein.
Bien sûr, il y en a plein.
Les associations pour le cancer du sein, il y en a aussi.
Il y en a beaucoup qui font un très beau travail. L'avantage que nous, on a, ou en tout cas la force qu'on a, c'est que le Racing est porteur. Donc, les messages de sensibilisation passent beaucoup mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut diffuser des messages.
Alors, quand vous dites diffuser des messages, c'est-à-dire qu'avant chaque match, il y a une annonce? Comment ça se passe?
Non, alors, souvent, on mène des opérations. Alors, moi, je travaille beaucoup avec le professeur Matelin, qui est à Licence. Et c'est vrai qu'elle avait un projet de créer un manchon connecté pour les femmes atteintes de lymphœdème. Et quand on a échangé, quand on a commencé à travailler ensemble il y a plus de 5 ans maintenant.
Vous êtes allée la voir?
Oui, je suis allée la voir. Quand j'ai décidé de la cause, il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse me parler au mieux et quelqu'un qui est dedans au quotidien, quoi. Et alors, ça aurait pu être un homme, hein. Mais on m'a soufflé le nom du professeur Matelin en me disant « Elle est extraordinaire, elle opère, elle est hyper proche de ses patientes. » J'ai appelé son service, je suis tombée sur sa secrétaire, Sandrine Candel, que je remercie, qui est toujours là, avec qui j'échange. Et elle m'a dit « Écoutez, le professeur opère, elle vous rappellera ce soir. » Mais je me suis dit « Je ne vais jamais me rappeler, quoi. » Le soir même, je reçois un coup de fil. C'est une femme qui a une voix assez particulière, elle est très charismatique. Et elle m'a rappelé, elle m'a remercié. J'avais encore rien fait. Et c'est là où je dis toujours qu'elle est très forte. Et puis elle me dit, on peut se rencontrer. On s'est rencontrés quelques jours plus tard. Il y avait beaucoup de monde à la réunion. Je pensais qu'on serait toutes les deux. Et puis finalement, je suis arrivée. Il y avait une start-up. Il y avait le directeur des hôpitaux. Je me suis sentie un peu petite.
Ouais.
Parce que je débutais. Et je me suis mise dans un coin. J'ai écouté. Il y avait deux projets qui l'intéressaient. Deux projets connectés. On a échangé par la suite. Elle a une manière de vulgariser les choses, de te faire comprendre très facilement. Donc, c'est vrai qu'il y a un projet sur le manchon connecté qui m'a intéressée. Et je me suis dit, si je me lance, c'est maintenant, au tout début, quand il faut faire encore des essais. Mm-hmm. Il va falloir faire des essais. Ça coûte relativement cher. Et c'est le premier projet qu'on a financé.
Donc, c'était un projet.
Ouais, c'était la start-up. C'était pas un projet très sexy. Et elle me disait, parler de lymphœdème, ça va être compliqué. Je dis non, mais vous savez, on va réussir à, comme vous l'avez vulgarisé, on va réussir. Et on a fait un clip avec les joueurs. Et puis les gens ont compris totalement de quoi on parlait, quoi. Du lymphœdème, du syndrome du gros bras. C'est quand même pas très. C'est pas évident. Et c'est vrai qu'on arrive à faire passer des messages. Parce qu'on a aussi les médias avec nous, un partenaire de Top Music. On est sur différents médias. Donc on peut plus facilement communiquer. D'autres associations sont peut-être plus sur le terrain, mais nous, on a aussi cette force de frappe de communication.
Et puis votre énergie, parce que...
Oui, il en a fallu.
Je vous vois là, je vois que vous avez beaucoup d'énergie et que ça compte quand il faut mobiliser les gens, parce qu'on a beau les connaître, encore faut-il les mobiliser.
Ouais,
mobiliser les joueurs, c'est pas si simple.
Alors, ils sont plutôt réceptifs. Moi, je suis partie du principe que c'était sur la base du bénévolat. Je n'ai jamais demandé à un joueur, de par ma position, d'absolument venir dans un hôpital ou sur une action. Parce que je ne trouve pas ça sympa pour les gens qui attendent des joueurs et de voir en face d'eux quelqu'un qui ne va pas être à l'aise. Mmh. Je pense que les gens n'ont pas besoin de ça. Ce sont des gens qui sont en souffrance, ce sont des gens qui sont en situation de fragilité, ce sont des gens qui sont... fan aussi. Donc, si tu débarques avec un joueur qui tu sens qu'il n'a pas envie ou qu'il n'est pas concerné, je trouve que c'est pas cool. Donc, à part peut-être une fois où j'ai dû dire à un joueur, oui, non, mais vraiment là, parce que l'enfant, voilà, vous êtes son fan, il faut venir. Mais ils sont pas, ils rechignent pas. Je ne les utilise pas tant que ça, en fait. C'est un choix de ma part de me dire que c'est l'institution Racing qui porte les causes. Mm-hmm. Pas le joueur, parce que le joueur...
Déjà, il peut changer.
Il va partir. Je ne veux pas compter sur le joueur. Mm-hmm. Je me suis beaucoup plus déplacée, moi, représentant l'institution, que les joueurs. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est une autre manière de faire du bien aux gens. Dans d'autres clubs, on utilise beaucoup les joueurs. Nous, c'est une autre manière de faire. Voilà, on essaye de faire ça à notre image.
Donc, vous focussez sur le cancer du sein, mais là, vous parlez des joueurs qui vont à l'hôpital. J'imagine que ça, c'est pour les enfants.
Ça, c'est pour les enfants. On a sur les enfants, moi, je suis très sensible à l'autisme. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des IME, des instituts... voilà, où il y a des enfants porteurs de handicap, visibles ou pas visibles. Et puis, j'ai eu un coup de cœur il y a quelques années pour le centre de réadaptation Clémenceau, quasiment en simultané avec le professeur Matelin. Donc, j'ai un rapport à Clémenceau particulier parce que je ne savais pas... Pour moi, le centre de réadaptation Clémenceau, c'était on avait fait un accident Et on allait en rééducation là-bas, alors qu'il y a un service d'oncopédiatrie au dernier étage. Et c'est un jour une femme qui m'a contactée en me disant, voilà, je fais partie, je suis ergothérapeute, je travaille à Clémenceau. Elle était venue au Racing avec des amis, on avait échangé. J'ai écouté, je vous rappellerai. Et je suis allée la voir, et je suis arrivée dans ce service avec des enfants. Alors il y avait des enfants... atteints de cancer, des enfants qui avaient subi une ablation d'une jambe en fauteuil roulant. Enfin, j'ai vu des choses assez compliquées, mais beaucoup de bienveillance. J'ai beaucoup aimé ce service qui était dans un état... la salle de repas était à la fois la salle où on faisait les activités. Enfin bon, un
oui,
peu...
Il n'y avait pas d'argent. Quoi.
Il n'y avait pas d'argent. Pas du tout. Et puis j'ai eu envie de les aider et je me suis mobilisée. C'est en fait souvent quand j'ai un coup de cœur pour un hôpital, pour un enfant, pour une femme, pour les services que j'aide, c'est qu'après je me dis bon, eux j'ai envie de les aider, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là j'essaye de créer des produits. Mon idée c'était pas d'appeler au don.
D'accord.
Parce que je considère que Sabrina Keller, le Racing Club de Strasbourg, qui appelle les gens à leur donner de l'argent. Je trouvais que c'était un peu maladroit, quoi. Il fallait que je crée des choses qu'ils aient envie de l'acheter pour que je récolte des sous. Donc, j'ai créé un calendrier de l'Avent, un petit peu particulier, avec plein de cadeaux dedans. Et on a eu un grand succès. Et ce calendrier de l'Avent m'a permis de financer beaucoup de choses au centre de réadaptation Clémenceau. Ce que j'ai adoré, enfin, ce que j'adore dans ce que je fais, c'est qu'il y a de la créativité. Je suis obligée de créer des choses. Mmh. Pour pouvoir récolter des sous. C'est pas simplement me dire, voilà, j'ai envie d'aider des enfants malades, donnez-moi des sous, quoi. C'est vraiment comment je vais réussir à me challenger pour récupérer des sous sans que ça coûte vraiment aux supporters ou aux gens qui ont envie de m'aider dans l'association. Donc voilà, cette année, par exemple, c'était les Galettes des Rois. On vient de finir la Galette des Rois. C'est quand même une opération qui m'a rapporté 30 000 euros.
Donc, comment vous faites la Galette des Rois, c'est-à-dire?
Alors, j'ai imaginé des fèves Racing Club de Strasbourg et Femmes de Foot. Et puis ensuite, on va voir les boulangers. On a fait un maillage dans toute l'Alsace pour proposer aux boulangers d'acheter nos fèves. Et puis ensuite, de faire une galette Racing avec une petite PLV sympa. Une manière aussi pour moi de faire du cercle vertueux, c'est-à-dire de travailler avec des artisans. Des boulangers, pâtissiers, que je ne travaille qu'en Alsace, ce qui est très important pour moi aussi. Je pense que l'idée de ne pas sortir de mon territoire m'a permis de grandir, m'a permis de faire comprendre les actions que je menais, puisque forcément, il y a des gens qui sont touchés par ce qu'on fait à un moment, que ce soit personnellement ou dans leur famille. Donc voilà, ce cercle vertueux, mettre en avant les artisans boulangers, tout en faisant une action, une bonne action à côté. Franchement, que tu achètes une galette des rois Racing ou une autre, où là, tu sais qu'au Racing, on va remettre de l'argent pour des enfants en situation de handicap, c'est quand même vachement sympa, quoi.
Que le boulanger, il la vendait un peu plus cher ou il la... Comment ça se passait techniquement?
Je pense qu'ils l'ont vendu un tout petit peu plus cher parce qu'ils ont acheté forcément les fèves un petit peu plus cher pour que je puisse gagner de l'argent. Et puis ensuite, mais ça leur a aussi fait des clients qui venaient
donc
chez eux.
La rémunération était sur la vente de la fève.
Sur la vente de la
fève. Après, la vente de la galette, voilà. N'avait pas d'importance.
Non, après, je pense qu'ils ont été quand même, j'espère, assez raisonnables. De toute façon, je crois que ça a été un succès. Ils ont bien vendu. On sait aussi les difficultés qu'ils ont aujourd'hui. On va les recevoir pour le match de Toulouse fin du mois.
Ah, donc vous renvoyez l'ascenseur, si
ouais,
je peux
ouais,
dire.
Ouais, bien sûr. C'est aussi parmi nos supporters. On a des artisans, on a des boulangers, on a des pâtissiers. On aime bien les mettre à l'honneur. On aime bien être au plus proche de ceux qui viennent chez nous. Qui sont-ils?
Donc là, on est sorti de l'idée de la femme au stade. Là, maintenant, on a dépassé ça. C'est-à-dire que l'association Femmes de Foot, ça s'appelle Femmes de Foot parce que, bon,
parce que c'est le
départ,
nom, voilà.
C'était le nom. Ouais. Mais votre objectif aujourd'hui, c'est de défendre un certain nombre de causes, pas seulement le cancer du sein, et d'imaginer des actions qui vont rapporter de l'argent.
Ouais.
C'est ça l'idée?
En général, c'est quand même, on va dire, les enfants, les femmes, mais à travers, pour financer ça, je vais utiliser un peu tout ce qu'on a dans notre territoire et mettre à l'honneur des gens. Et en tout cas, voilà, on se renvoie la balle. C'est vachement bien pour les pâtissiers boulangers qui ont participé à nos opérations et c'était super content, quoi.
Et alors, vous êtes une équipe aujourd'hui pour imaginer toutes ces actions ou vous êtes toute seule? Comment ça se passe?
J'ai la chance d'avoir des bénévoles quand j'ai besoin de monter une opération. Après, je m'appuie quand même sur le Racing Club de Strasbourg quand ce sont des opérations que je mène avec eux. Mais ouais, je gère plutôt seule Alors, on a fait un maillage parce que l'année dernière, on avait fait des galettes des rois, mais on en avait très peu. On en avait 3000, je crois. Et on était très concentrés sur Strasbourg, quelques-unes à Mulhouse. Les gens faisaient jusqu'à 70 bornes pour venir acheter une galette.
D'accord.
Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. Ça, je peux pas accepter que les gens fassent autant de kilomètres pour acheter une galette des rois. Et j'avais d'ailleurs fait une petite interview sur Top Music. Et le soir même, les boulangers m'appelaient en disant, non, mais attendez, on est envahis de coups de fil. De gens
si
qui veulent, voilà, on a vraiment fait un maillage, et puis là, on en a eu quasiment partout. Donc les gens n'ont pas eu besoin de faire plus de 10-15 bornes pour acheter leur galette des rois Racine.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider si on a envie de...
Eh bien, si on a envie de nous aider, je suis, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est vrai que j'appelle pas aux dons. M'aider, c'est d'acheter des produits quand on mène une opération. On va sûrement refaire une collection. C'est vrai que j'avais sorti une collection de fringues femmes de foot qu'on trouve dans les boutiques du Racing. Voilà, à chaque fois que vous voyez un produit qui a été imaginé, créé par femmes de foot, n'hésitez pas à l'acheter parce que forcément 100% des bénéfices reviennent à l'association.
Voilà, donc tout ce que vous sourcez, c'est offert.
Oui, tout est reversé. Ben c'est voilà, on peut pas faire les choses à moitié. C'est vrai que c'est beaucoup d'énergie pour moi, mais c'est aussi une satisfaction quand tu vois effectivement que sur l'opération des galettes, tu vas récupérer 30 000 euros, que tu sais exactement que ce que tu vas pouvoir faire avec, de manière très concrète. Ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Donc moi, je suis bénévole. Ça me prend beaucoup de temps, mais je suis heureuse de créer des événements comme ça.
Est-ce que dans les autres clubs, est-ce que vous échangez parfois? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires?
Oui, j'échange régulièrement. Là, j'ai échangé avec Lens, d'ailleurs. Ils étaient là il n'y a pas longtemps. Bah oui, ils connaissent bien les opérations femmes de foot. Les clubs français, déjà, ils se suivent sur les réseaux sociaux. Donc forcément, tu vois ce que chacun fait. Oui, c'est connu. C'est parfois un petit peu copié, mais bon, ça c'est pas très grave.
Une licence, il y aurait d'autres femmes de foot.
Ouais, alors sincèrement, j'y avais pensé il y a quelque temps. Ça prend beaucoup de temps. L'association me prend énormément de temps, donc pour aller développer autre chose ailleurs, voilà, je peux pas tout faire. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Après, c'est très personnifié aussi. Il faut trouver une personne. Ouais, il faut trouver une personne en interne. Il faut absolument que les clubs puissent avoir la ressource qui va être dédiée 100% à ne faire que ça. Mais bien évidemment qu'il y aurait des choses sympas à faire. Après, je connais beaucoup de gens. Je sais que les journalistes suivent beaucoup ce que Femmes de Foot développe à Strasbourg. On est très regardés, mais vraiment, on est respectés pour les actions qu'on mène. Puis il y a aussi eu une période sur laquelle on peut revenir, c'est le Covid. C'est posé la question en mars, quand tout a été fermé, de savoir si je mettais l'association un petit peu en sommeil, puisque voilà, il n'y avait plus de matchs, enfin les matchs étaient à huis clos. Et voilà, je crois que je me suis posé la question 5 minutes, puisque le soir même, je recevais un coup de fil d'une association strasbourgeoise qui était mais dépassée par le nombre de personnes qui venaient pour manger, puisque les restos du cœur avaient fermé le soir même, parce que les bénévoles avaient dû... Voilà, tout le monde était rentré. Voilà. Et donc, 5 minutes, je me suis posé la question, et au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais en fait, non. Le lendemain, je suis allée voir nos traiteurs avec lesquels on travaille, qui eux étaient aussi... complètement
fermé.
À l'arrêt.
Ouais.
Et je me suis dit, mais il leur reste plein de trucs, plein de bouffe. Donc, je vais leur acheter de la bouffe et puis on va aller la ramener. Bon, il se trouve que c'était avec Valérie Suzan, Strasbourg Action Solidarité. On a recommencé à travailler ensemble. Puis ensuite, on a commencé à faire des blouses. Et puis ensuite, on a fait des paniers pour le personnel soignant. Et puis, on a fait des masques que j'ai fait faire au Portugal pour les enfants de foyer. On a été dans les foyers. Et j'ai vécu 2 ans, en fait, quasiment tous les jours dehors, puisqu'il fallait, aider. J'ai des grosses sociétés qui sont venues me donner des sous, hein, des sociétés avec lesquelles je n'échangeais pas avant, mais qui m'ont dit, ben voilà, en interne, on a demandé à tous les salariés de choisir entre 2 ou 3 assos en local pour pouvoir aider ceux dans la difficulté. On vous a choisi, donc je trouvais ça super. Et en fait, l'argent arrivait, mais c'était assez incroyable. J'étais très dedans, très très dedans. Et du coup, 2 ans plus tard, Quand on fait le bilan un peu de ce Covid, on avait dépensé 400 000 euros. Quoi.
Vous, ça a été un accélérateur.
Ouais, ça a été un accélérateur où là, on a vraiment senti que l'association avait pris le pas sur la féminisation, sur ce qu'on faisait. Il y avait tellement de besoins.
Oui, on n'était plus dans l'idée de femme supportrice ou de même de foot.
Non, mais là, on était dans l'assaut qui vient en aide aux plus fragiles sur son territoire.
Quel que soit le thème.
Les EHPAD, j'ai travaillé avec Boulanger, la société Boulanger. On a distribué beaucoup de d'iPads, de tablettes dans les EHPAD. Mmh. On a fait... Alors, je ne saurais pas, en fait, quand on me fait le bilan.
Comment vous faites ça toute seule?
Bon, là, j'ai eu quelques bénévoles. Ouais, mais je crois que j'ai déployé une énergie...
Il faut les acheter. Il faut les appeler, les bénévoles.
Ouais. Non, mais
les solliciter.
J'ai beaucoup de chance, hein. J'ai beaucoup de chance. J'ai quand même quelques bénévoles autour de moi qui comme moi, arrivent à déployer par moments une sacrée énergie. Et franchement, ils sont top, quoi. Les foyers d'enfance, on avait dû faire 4000 cadeaux neufs pour Noël. Enfin, on a été vraiment... Alors, moi, je passe beaucoup de temps à écouter aussi. Quand on m'appelle, les gens, leurs souffrances, leur manière de vivre... pour les femmes, leur cancer, donc de se dire, mais attends, mais là, en fait, on ne pourrait pas faire plutôt ça. Sur les soins support, j'essaye d'être très présente. Donc, moi, je passe beaucoup de temps, je passe beaucoup d'énergie à écouter les gens. Et puis après, très vite, je me dis, il faut qu'on fasse ça. Mais comme c'est super concret, en fait, t'y vas, quoi. Tu ne te poses pas de questions. Et c'est vrai que...
Donc, rien n'est impossible.
Non, rien n'est impossible quand on a envie, quand on a la volonté, Non, rien. J'aurais jamais imaginé, il y a 5 ans, être à pas loin d'1 million d'euros reversés sur le territoire. Donc, non, rien n'est impossible. Je dis pas que par moments, c'est compliqué, parce qu'il a fallu apprendre aussi. Moi, j'ai appris j'apprends tous les jours. Mmh. J'apprends à gérer les émotions, parce que la première fois, quand tu débarques dans un hôpital, quand tu débarques dans certains services, je suis déjà sortie... Au début, je pleurais beaucoup. J'étais très touchée. J'étais très. Donc, tu t'apprends beaucoup sur toi, en fait, tous les jours. L'envie de. T'as parfois la rage quand tu vois certaines situations. Et puis après, tu te dis, bah non, il faut pas. Donc, mais rien n'est impossible, même pour des gens sensibles comme moi. Tu peux y arriver, quoi. Tu peux, à un moment. Te dépasser dans les émotions. Et puis parfois, tu te laisses submerger. Et puis, il faut aussi... j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses assez terribles. J'apprends tout le temps.
Donc, et après, il faut savoir aussi convaincre les autres de vous suivre. Ça, c'est important. Parce que seul, vous faites déjà beaucoup, mais vous ne pouvez pas tout faire.
Ouais, mais je pense que c'est en discutant comme ça. Je veux dire, c'est quand tu expliques aux gens... ce que tu as envie de financer, pourquoi tu as envie de le financer, parce que tu as vu ça ou parce que tu as lu ça ou...
Mais comment vous faites? Vous allez voir par exemple un hôpital, un service ou autre, vous rentrez et qu'est-ce que vous faites là?
Non, mais je suis sollicitée quand même.
Ah,
voilà.
D'accord, c'est
plutôt les gens qui vous sollicitent. Ouais, je suis sollicitée. Ouais. Après, il y a plein de projets sur lesquels je n'ai pas été.
Donc, vous êtes sollicité, vous vérifiez.
Aujourd'hui,
vous
parce
regardez.
Qu'on a aussi... Alors, après le professeur Matelin et centre de réadaptation Clémenceau, forcément, on communique un petit peu. On va faire soit un communiqué de presse, soit un peu de presse, soit une petite vidéo sur les sites du Racing et de Femmes de Foot. Donc, forcément, derrière, tu es sollicité par d'autres établissements qui disent « Est-ce que vous pourriez nous aider ?» Donc après, je choisis.
Il faut trouver des gens qui vont vous accompagner pour vous aider, pour aider. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule.
Non, je ne fais pas tout. Enfin, quand je débarque dans un hôpital, moi mes revenus, ils sont... J'ai 2-3 quand même mécènes importants qui m'aident. Et leur argent, j'essaye de l'utiliser. Je prends leur argent, je l'encaisse dans l'association et ça repart. C'est, tiens, je prends leur argent, comment je vais le transformer pour faire x2? Mmh. Éventuellement, donc en créant ma ligne de fringues, en créant des produits, en créant un événement. Donc je multiplie x2, x2,5 par moment quand je peux. Le Racing Club de Strasbourg donne aussi une somme d'argent à l'association.
C'est l'un des mécènes.
C'est l'un des mécènes. J'ai aussi SPI, j'ai Boulanger, j'ai cette année Adidas qui arrive. Voilà, j'ai des gros mécènes. Donc c'est pour ça que je ne demande pas non plus Voilà. Et puis, de temps en temps, j'ai des gens adorables qui me font des dons, des particuliers, qui envoient sur le site de Femmes de Foot, qui me font un don. C'est super gentil et ça m'aide.
Donc, on a un site internet.
Ouais, on a un site internet. Je suis très heureuse. Moi, 20 euros, c'est 20 euros. Hein.
Ouais.
Je prends tout. C'est-à-dire, je ne sollicite pas, mais quand on me donne, je suis super heureuse. Et quand on me fait un don de 100 euros ou de 50 euros, j'explique aux gens. Ah, ça va aller là. Je sais exactement où va l'argent. L'argent, c'est bien. Choisir les projets, c'est primordial pour moi parce qu'en fait, quand tu as un projet qui te plaît, mais tu y vas à fond, quoi. Puis il y a des trucs où je n'ai pas senti. Des gens. Je me bats plutôt quand même pour des gens.
Alors, c'est assez original d'ailleurs parce que souvent dans les associations, la personne qui crée l'association, c'est parce qu'elle-même, soit elle a été victime, soit... quelqu'un de sa famille ou autre a eu, je ne sais pas moi, on en voit beaucoup des associations.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Vous, ce n'est pas le cas.
Non.
Vous, vous êtes dit, j'ai envie, au départ, de mettre au service des femmes qui vont au foot.
Ouais.
Ah, c'est comme ça que ça a commencé,
tout à fait.
J'ai bien compris. Et de fil en aiguille, vous devenez de plus en plus indispensable à la société, finalement, alsacienne.
Mais je crois que j'ai toujours été animée depuis petite par l'envie d'aider. Il n'y a pas très longtemps... j'ai croisé la maman d'une amie qui est une élue, qui est maintenant assez âgée, et elle me dit, tu sais, je me souviens de toi quand t'étais petite, t'étais la Ménie Grégoire. Et puis j'étais tout le temps en train de défendre tout le monde. Voilà, c'est inné en moi, j'avais envie d'être, d'aider les autres. Mm-hmm. J'ai toujours eu envie d'aider les autres. Et je me suis dit, mais alors là, franchement, mes enfants étant grands, c'était pour moi très important. Oui, souvent on m'a posé la question, est-ce que vous avez été touchée par un cancer du sein pour être aussi sensible à ça? Non. Mais j'aime les gens. Je crois que j'aime profondément les gens et sûrement plus ceux qui sont dans la difficulté parce que je trouve que souvent, ces gens-là ont qu'un objectif, c'est de vivre. Moi, j'admire ces gens-là qui se battent au quotidien. Et peut-être que moi, j'ai une autre forme de combat. Et en tout cas, je me sens très à l'aise et très bien pour me battre. Enfin, moi, j'ai très envie de me battre pour certaines causes, ça c'est sûr.
Donc aujourd'hui, vous êtes dans la lumière. Votre mari, il est fier.
Est-ce que mon mari est fier? Ouais, je crois que oui. Non, mais je crois qu'il est extrêmement fier du parcours que je fais à ses côtés. Puis c'est aussi une manière d'être quand même un peu avec lui. On peut échanger aussi de temps en temps sur ce que moi, je mène comme action pour le Racing. Donc voilà, c'est une manière de rester ensemble sur un projet quand même qui est le Racing Club de Strasbourg énorme. Voilà, il y a beaucoup d'attentes autour du Racing Club de Strasbourg. Moi, je ne me voyais pas faire autre chose que d'amener ma pierre à l'édifice, à ce qu'il a construit.
Mais bien qu'aujourd'hui, femme de foot, c'est un petit peu détaché.
C'est détaché, mais je reste quand même le côté cœur. Souvent, mon mari, il y allait le bras armé du Racing. Ouais, je crois que je suis le côté cœur aussi du Racing. Non, je crois qu'il est très fier. Et il a aussi eu, par moments, un petit peu... peur, ce serait pas le terme, mais de me voir autant avec des gens touchés par la maladie. Par moments, je crois qu'il s'est dit, est-ce que...
elle va résister.
Elle va résister. Et puis finalement, ouais, on résiste. Mais il a eu aussi, effectivement, cette inquiétude de se dire... et puis pas l'envie non plus que je ne fasse...
Que ça.
Bah, je ne fais quasiment ça. Mais d'être tout le temps dans cet univers de maladie, ouais, je crois qu'il avait un petit peu peur. Parce que tu finis par t'enfermer quand même un petit peu. La difficulté, je crois, quand on crée une association qui va venir en aide aux gens en difficulté, c'est que après, quand tu croises des gens qui vont bien et qui te racontent leur petit malheur, t'as quand même tendance à pas envie de les... Enfin, moi, j'avais plus envie de les voir, quoi. Mmh. Et je suis passée par cette étape-là. Mmh. Je suis passée par là. Les gens ne m'intéressaient plus.
Ouais, je comprends.
Les gens qui allaient bien ne m'intéressaient pas.
Bah, les petits bobos du quotidien, ouais. On se dit comment peuvent-ils se plaindre.
Et puis finalement, quelques années plus tard, j'ai eu un long moment comme ça. Et puis maintenant, je crois que j'ai besoin de superficiel par moment. Enfin, pas de superficiel, mais en tout cas de penser à d'autres choses, quoi. Il faut quand même un peu s'alléger. Mmh. On peut vite être focus uniquement là-dessus. Je crois que c'est pas bien ni pour ta famille, ni pour tes amis. Ni pour soi-même, quoi. Voilà, quand on est trop tourné. Alors, c'est ce qu'on apprend. Hein. Moi, j'apprends. C'est pour ça que je vous dis, c'est une aventure humaine extraordinaire, parce que j'apprends des autres, mais j'apprends beaucoup sur moi, je crois. Sur ma capacité à non seulement à gérer les émotions, et puis à se dire, ben, non, il faut aussi prendre soin de soi. Il faut. Tu passes par toutes les.
Bah, c'est multifacette, parce qu'il faut à la fois avoir l'énergie suffisante pour apporter du bien, ou en tous les cas. De la lumière à ceux qui en ont besoin. Et en même temps, il faut aller travailler les mécènes, leur expliquer, leur donner envie. Donc pour ça, il faut aussi de l'énergie.
Oui, il faut de l'énergie pour ça. Il faut, Et puis moi, quand les gens me voient, ils voient le racing, ils voient mon mari aussi, ils voient les joueurs. Donc en fait, tu es là et alors tu représentes, tu arrives avec tout le monde.
Ouais.
Donc tu arrives avec tout ça. Donc il faut que tu te représentes toi, mais il faut représenter tout le reste de l'institution. Donc, il faut être assez solide.
Mais on voit parfois uniquement Sabrina Keller faire du foot sans forcément voir le Racing derrière.
Ouais, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux que j'aide ne voient pas voient Sabrina.
Oui, donc aujourd'hui, on va dire que femme de foot, Sabrina Keller, femme de foot, existe par vous-même.
Ouais, non, beaucoup de gens.
L'incarner totalement.
Et puis maintenant, je sais mettre un peu les limites. Et puis,
imaginons que demain, Marc ne soit plus au Racing, femme de foot continuerait.
Oui, ça pourrait continuer, mais ça pourrait aussi s'arrêter si un jour j'avais plus l'énergie.
Oui, c'est ça, mais ça dépend de vous.
Voilà, tout dépendra de moi. Ouais.
Mais comment on peut arrêter ça?
Mais parce que je pense que moi, je ne suis guidée que par l'énergie et l'envie, pas rien d'autre. Pas par du pognon, pas... Moi, tu me donnerais aujourd'hui 10 millions de plus, je ne sais pas si je serais plus heureuse. Mais on laisse pas... En fait, je crois qu'on ne laisse pas tomber. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on peut aider, on aide. Mais vous savez, le nombre de messages, de mails que je reçois par jour pour aider, mais je ne peux pas aider, enfin déjà, je ne peux pas aider la Terre entière. Je pense qu'il faut le faire en toute honnêteté avec l'envie. Il ne faut pas le faire, là je l'ai encore et j'espère l'avoir encore longtemps, mais j'arrêterai le jour où je me dirais, j'ai plus envie. Parce que ce qui a fait ma force, c'est moi. Mais ce qui pourrait faire ma faiblesse, c'est moi aussi. Quoi. C'est une aventure, j'allais dire personnelle, une aventure humaine extraordinaire que je partage avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience que peut-être qu'aujourd'hui, une fois qu'ils ont fait beaucoup d'argent, bah, ils n'ont pas beaucoup donné. En tout cas, ça ne les satisfait pas. Alors c'est super, ils peuvent te donner un coup de main sur un truc, mais moi c'est du tous les jours. L'énergie, il faut l'avoir tout le temps.
Quel regard vous portez sur le monde associatif ?
Alors je me considère quand même comme une association à part, hein, de par ma chance d'avoir le Racing qui est à côté de moi et de par la notoriété qu'on peut avoir. Je ne sais pas, les réseaux sociaux ont fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'associations, beaucoup de parents qui créent des associations, qui galèrent.
Tout à l'heure, qui incarnent en fait une souffrance.
Ouais.
Et qui vont créer une association pour...
Mais qui parfois s'épuisent aussi, quoi. Mm-hmm. Je suis parfois très mal à l'aise avec certaines associations qui se créent pour venir en aide, de parents qui viennent en aide à leurs enfants. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de récolter des sous. Mm-hmm. Et parfois, je préférais que les associations se mettent ensemble. Mm-hmm. Pour avoir une vraie force, que chacun dans son coin. Mais je crois qu'il faudrait que certaines associations qui ont la même cause se fédèrent, mettent l'énergie ensemble. Il y a peut-être beaucoup d'énergie perdue pour pas grand-chose. Moi, je suis la première. Moi, je viens en aide à des associations, la plupart du temps. Hein, je veux dire, à part Clémenceau et le professeur Matelin, je travaille avec Strasbourg Action Solidarité, je travaille avec le Lion, je remets de l'argent à l'association L'Embellie qui aide des femmes qui sont atteintes de cancer. Enfin voilà, j'aide des associations que je choisis. Je crois qu'on devrait trouver un autre système et
c'est trop
fédérer.
Morcelé, en fait.
Ouais, et puis beaucoup de parents s'épuisent à avoir l'enfant malade à la maison et puis à leur faire des actions pour aller récupérer des sous pour aider son gamin.
Mais ça leur donne une raison d'être.
C'est ce que je dis. Mais est-ce que ils s'épuisent pas? Je sais pas.
Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Mes enfants, ils sont grands maintenant. Hein. Notre fils a 25 ans, notre fille a 21 ans. Au début, ils suivaient ça un peu de loin. Je pense que voilà, ils ont eu l'habitude que je m'occupe d'eux et puis d'un seul coup. J'ai eu un troisième bébé, parce que je considère l'asso comme mon petit bébé. Donc, il y a eu un peu d'inquiétude, effectivement, sur « Maman, elle rentre, elle nous parle de gens qu'elle a vus qui avaient des cancers, mais pourquoi elle fait ça ?» Donc, il y a eu un peu de distance je voulais pas trop entendre parler de ce que je faisais. Parfois, ça a pu me peiner un petit peu en disant, mais ils comprennent pas. Et puis, très vite, je me suis dit, mais en fait, ce sont des enfants. Toi, t'arrives, tu leur dis que t'as créé une association, que tu vas aller remettre de l'argent là, à des enfants qui ont des cancers. Et donc, ils ont mis de la distance. Et puis, le temps a fait, et le travail, et l'abnégation a fait qu'aujourd'hui, ouais, ils sont super heureux, fiers, ils me posent des questions. Quand il faut aider, ils sont là. Ils emballent les cadeaux, ils font des choses, ils sont très attentifs. Mais j'ai des enfants qui, effectivement, notamment mon fils, sont très, très tournés vers les autres. Donc voilà, je pense qu'ils sont contents de ce que je fais.
C'est une éducation, ça, de montrer à ses enfants qu'il faut aussi aider les autres.
Ouais.
Il ne faut pas toujours se regarder le nombril.
Oui. On vient de famille, de toute façon. On est très, très dans l'entraide.
Donc les familles aident, vos parents aident.
Voilà. Voilà, ça a toujours été comme ça. Voilà, quand tu vois quelqu'un qui a moins que toi, ben voilà, tu peux le partage, quoi, le partage d'un repas. C'est pas forcément donner des sous, c'est être à l'écoute, être près des gens qui ne vont pas bien. Ouais, partager un repas. Nous, quand on faisait un couscous à la maison, je n'avais jamais, prends l'assiette et va la ramener à la voisine. Je suis d'origine algérienne, mes parents sont nés en Algérie et sont venus. Ma mère est venue à l'âge de 4 ans, donc, je suis d'origine kabyle. Voilà, donc on a.
C'est dans vos gènes.
Ouais, mais voilà, c'est à l'oriental. Mes beaux-parents sont catholiques et sont très généreux aussi, ça ne veut rien dire. Je crois que ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'éducation. On a été élevés pour toujours ne jamais se moquer des gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué dans ma famille. Ne jamais envier, ne jamais se moquer. Et je crois que quand dans la vie, on part déjà avec ces deux qualités, c'est pas mal, quoi. Mais je tiens ça, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi un hommage à mes grands-parents qui étaient généreux. Mon grand-père était quelqu'un de très généreux. Et je pense que c'est une manière aussi, de manière moderne, de continuer ce qui nous a inculqué, en tout cas de le traduire à ma manière. C'est assez marrant. Mes parents sont au courant de tout,
beaucoup de
je pense. Et ouais, c'est animé de beaucoup de pudeur. Moi, je ne raconte pas non plus, ni à ma famille, ni à ma belle-famille.
Non,
ils voient.
Non, vous ne racontez pas.
Non, pas tellement, parce que... Ouais, c'est une forme de pudeur, parce que je me dis, je fais... pas obligé
donc
de les raconter, quoi.
Vous n'avez pas embarqué toute la famille dans votre histoire.
Ils suivent, ils font des dons de temps en temps. De temps en temps, j'ai une belle-sœur. Ils mangent la galette. Ça, par contre, je leur dis, ça serait sympa d'aller acheter la galette pas loin de chez vous. Ma belle-mère suit, ma belle-mère achète les habits femmes de foot. Mais on n'en parle pas plus que ça, parce que je crois que... Ouais, ce qu'on disait, c'est quand même assez particulier. Alors, si, quand tu fais du bien, si c'est pour le raconter, je suis obligée de communiquer.
Ouais.
Voilà, parce que quand on me donne de l'argent, je suis obligée de communiquer sur comment je l'emploie. Mais c'est vrai que dans ma famille, j'en parle pas. Et cette pudeur, c'est surtout avec mes parents. Ouais. Mais je crois qu'ils sont très fiers, forcément, de ce que je fais. Mais voilà, ils doivent se dire qu'ils ont bien réussi leur éducation, j'imagine. Franchement, de là où je viens, je suis plutôt cool, quoi. On est plutôt des gens simples. On n'est pas... on est abordable, on est simple. Voilà, je ne me prends pas la tête, quoi.
Sabrina, ce podcast s'appelle Le Podium. Et donc, le podium, aujourd'hui, on va quand même considérer que vous êtes en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur ce podium?
Je voudrais y faire monter ma famille et ma belle-famille. Voilà.
Donc, on reste dans la famille. C'est important, la famille.
Dans les moments un peu compliqués, la famille et la belle-famille... C'est celle sur qui on peut compter.
Merci beaucoup, Sabrina. Merci.
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir et faire l'acteur. Quand on n'est plus à la hauteur, restent les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. Des promesses, la main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.